Les podcasts de la SRF.
Bonjour, merci à toutes et à tous d'être avec nous. Que vous soyez professionnel du cinéma ou cinéphile curieux ou éco-sensible, merci donc et bienvenue dans le deuxième épisode de notre série en 6 parties, l'écologie et la pratique du cinéma. Après l'épisode 1 qui dressait un état des lieux, aussi bien des chiffres que des initiatives, des futures obligations et des dispositifs existants, nous allons aujourd'hui nous consacrer à un exemple concret. Un retour d'expérience, puisque le tournage de L'Attachement de Karine Tardieu est en train de s'achever et que Karine a souhaité que son tournage se déroule dans une conscience écologique accrue. C'était une volonté déjà sur Les Jeunes Amants, son film précédent, mais vous avez voulu, Karine, améliorer la démarche sur ce nouveau film et vous allez nous expliquer comment. Alors, je vous présente. Bonjour Karine Tardieu.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, vous avez réalisé 5 longs-métrages, dont La tête de maman, Du vent dans les mollets, Ôtez-moi d'un doute, Les jeunes amants et donc L'attachement aujourd'hui. Bonjour Eline Kirschfink.
Bonjour.
Vous êtes chef opératrice, on vous connaît pour des films comme Bernadette récemment ou Nos batailles, et pour des séries comme Sambre ou Jeux d'influence. Et vous avez travaillé avec Karine sur Les jeunes amants et donc sur ce nouveau film L'attachement, dont nous allons parler en détail sous l'angle de la fabrication. Question à l'une et à l'autre, à partir de quand l'écologie sort de votre réflexion de citoyenne, de vos réflexions personnelles et ou politiques, pour devenir une préoccupation dans votre profession, Karine ?
Ça se fait naturellement, ça n'arrive pas du jour au lendemain en me disant tout d'un coup, il faut que je me sens très écolo depuis toujours. C'est vraiment quelque chose qui m'a été transmis déjà par ma mère, qu'il était peut-être avant l'heure. Et du coup, j'ai toujours, dans ma vie quotidienne, fait attention à, et j'ai été éduquée comme ça, à ne pas gâcher, à ne pas surconsommer, j'ai sans doute fait partie des premières, dès qu'il s'agit de trier les déchets ou ce genre de choses, enfin, toutes les petites actions qu'on peut faire. Et du coup, c'est venu très naturellement. C'est-à-dire que c'est en étant, en travaillant sur mes propres tournages, donc où finalement j'étais très souvent choquée par ce que je voyais. Et comme c'était initié par moi, puisque c'était moi qui étais à l'initiative des films que je réalisais, je me disais, à cause de moi, d'une certaine manière, il y a tout ce gâchis. Qu'est-ce que je peux faire pour y remédier ou améliorer les choses? Donc je me suis sentie responsable de ce qui se passait sur mon plateau. Voilà.
Et vous, Eline Kirschfink?
Alors moi, je me sens assez écolo dans la vraie vie, c'est-à-dire je suis passée par la construction et rénovation de bâtiments à l'écologie. Et donc comme Karine, je pense que je fais relativement bien attention. J'ai plus de voiture depuis des années, je ne prends pas l'avion ça depuis très longtemps. Mais à vrai dire, dans le cinéma, je n'ai pas eu de vraie prise de conscience parce que je ne savais pas par quel bout le prendre, c'est-à-dire quels étaient mes moyens pour améliorer. Et la vraie prise de conscience est venue par une lettre de notre chef opérateur qui m'avait fait réfléchir, en fait, plus sur le fond, pas que sur des questions des petites améliorations, mais c'est-à-dire sur le fond, à l'image, qu'est-ce qu'elle vient de faire pour moins consommer. Voilà, après, la mise en pratique est très loin d'être évidente. Mais en fait, c'est vraiment par quelqu'un d'autre qui s'est penché comme Karine sur la question que j'ai pris conscience dans mon métier uniquement.
Donc l'idée de la lettre, en tout cas écrite à son équipe, c'est quelque chose sur lequel on va revenir, puisque Karine, vous avez écrit une lettre à votre équipe en amont du tournage de L'Attachement. Mais je voudrais revenir sur une autre chose qui me paraît fondamentale que vous venez de dire, Karine, c'est dans la mesure où c'était mon film et où c'était à cause, entre guillemets, de moi. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du retard, on pourrait dire, de la prise de conscience des cinéastes par rapport à la question écologique ?
J'ai la sensation, je sais pas, j'ai une réponse ça n'est que ma réponse, mais que quand on écrit un film, on est pétri d'inquiétude. Est-ce qu'on va le faire, pas réussir à le faire? Donc on passe des étapes. Donc il y a l'écriture, qui pour le coup n'est pas très nécessite pas beaucoup de moyens en termes d'écologie pour le coup, mais et à partir de là, une fois que le film est mis en branle, qu'on essaye de trouver de l'argent pour le faire, il y a plein d'étapes qu'on doit passer. Et tant qu'on a, qui sont la recherche du casting, puis la recherche, enfin, pour certains même qui commencent, ça peut être la recherche d'un producteur, puis la recherche du casting pour pouvoir monter le film financièrement. Et ça se joue à chaque fois, ensuite, qui est disponible, pas disponible. Et on a, c'est déjà une épreuve en soi qui fait que quand on peut avoir les meilleures intentions du monde, quand tout d'un coup on nous dit c'est bon, t'as des dates de tournage, tu peux tourner, en fait, on a presque plus le temps ou l'énergie des concessions que pourrait demander l'écologie.
Un tournage, quasiment par définition, est une série de contraintes, de compromis, de changements de dernière minute. Est-ce que vous pensez que l'écologie pourra devenir simplement l'une de ces contraintes prises en amont dès le tout début d'une préparation de film, pour éviter justement ce côté contrainte en plus au dernier moment ?
Oui, je pense vraiment, mais ça peut pas être une contrainte. C'est pas être une contrainte parmi d'autres, mais pas. Il faut pas que ça devienne un dogme qui nous empêche. C'est-à-dire que je pense toujours que le mieux est l'ennemi du bien et que parfois la nuance est plus efficace que de se mettre des contraintes absolues de je ne veux plus tourner de scène de pluie ou je ne veux plus tourner avec tel type de projecteur. Je pense que c'est bien d'avoir une connaissance de tout ce qui coûte en termes d'empreinte écologique, et de faire du mieux qu'on peut. Alors, évidemment, il y a une urgence écologique, donc il faudrait qu'on s'habitue vite. C'est ça l'idée. Il faut que chacun, à son poste, et c'est ce que je demandais dans la lettre que j'ai faite à mon équipe avant qu'on commence à tourner, je sais plus quoi a été faite exactement, mais je n'ai pas les solutions moi-même, je n'ai pas toutes les solutions. Je peux vous donner un exemple ou deux de ce que moi je peux faire ou de ce à quoi j'aspire, mais c'est j'ai besoin d'aide, quoi. Aidez-moi à ce qu'on fasse du mieux qu'on peut.
Alors justement, cette lettre que vous avez écrite donc en mars 2023 en amont du tournage de L'Attachement, je vais en lire deux petits extraits. L'idée était donc de sensibiliser dès le départ toute votre équipe à cette démarche écologique. Donc, un premier extrait. « Dans ce monde qui tangue et qui fragilise aussi le cinéma, je mesure plus encore chaque jour la chance qui m'est donnée d'avoir les moyens et une bonne dose de liberté de créer une nouvelle œuvre de fiction. Cela me paraît tantôt dérisoire, tantôt essentiel et vital, en tout cas, à ce jour, et me concernant, le désir est plus que jamais là. » Et plus tard, vous dites « Je suis incapable de fermer mes écoutilles sous prétexte qu'un tournage serait un endroit hors la vie. D'autant d'ailleurs que je pense exactement l'inverse. Il me semble donc impossible de me concentrer sur la fabrication de ce film en oubliant l'état du monde, d'autant plus que son sujet, l'attachement, contient l'idée de la transmission et que le scénario se termine, mais je devrais dire s'ouvre, sur les petits pas insouciants d'une enfant de 2 ans qui a la vie devant elle. Lucille pourrait être ma fille et ce message concerne avant tout son avenir. » Et plus loin, pour finir, vous dites « C'est globalement à cause de moi que nous nous apprêtons à passer du temps ensemble, à fabriquer cet objet qui a pour but de mettre du baume sur ce monde dégueulasse. Je me sens responsable de l'impact écologique de son tournage. Autrement dit, c'est chouette d'inventer des histoires qui nous permettent de transcender la réalité, mais ce serait encore plus chouette si dans un même temps, on essayait de prendre soin de cette même réalité. Où vais-je en venir ? À cette question que je vous adresse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, tous ensemble, les uns les autres, pour que d'un côté ce film fournisse sa modeste dose d'oxygène à notre société, sans que de l'autre, il participe impudemment à l'asphyxie globale ? Est-ce que vous pouvez nous dire comment a été reçue cette lettre par votre équipe ?
Globalement, ça a été hyper bien reçu, et je parle des chefs de poste, entre autres, l'accessoiriste, la chef d'éco, et qui étaient les premiers à qui j'ai envoyé cette lettre, puisque les autres n'étaient pas encore embauchés sur le film, m'ont tous répondu avec enthousiasme en disant « ça fait du bien que ça vienne d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, en l'occurrence. Et voilà ce qu'on fait déjà. » Pour certains, m'ont raconté un certain nombre de choses. Voilà ce que peut-être on pourrait améliorer. Enfin, et ensuite, ce qui a été assez frappant sur le tournage, c'était que dès la prépa, l'écologie était en permanence avec nous. Par exemple, avec mon accessoiriste, je leur disais, si vous avez plusieurs accessoires à me présenter, envoyez-moi des photos, j'ai pas besoin que vous préachetiez tout et que je choisisse parce qu'en général, l'accessoiriste, il met sur une grande table tout ce qu'il a acheté pour le film, et j'ai le choix entre 4 valises différentes, entre 5 paquets de cigarettes, machin. Et du coup, il me parlait des choses ou il me les montrait en photo, et ça évitait des allers-retours partout pour aller acheter ces trucs qu'il fallait rendre après ou revendre, enfin bref.
Ouais. Après, on a dû se le rappeler les uns aux autres aussi, parce que, par exemple, justement, la présence d'accessoires, je me rappelle qu'on s'est dit, ah bah tiens, il y a beaucoup de choses neuves, comment ça se fait qu'il y ait autant de choses neuves qu'on va patiner, alors qu'il y a plein de choses qu'on peut acheter en seconde main.
Et ce qui a été, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu des grandes, grandes discussions autour de la cantine. C'était ma directrice, parce que dans ma lettre, je crois que je mettais un truc du genre est-ce qu'on est vraiment obligé de manger, d'avoir le choix entre du bœuf, du poulet, du poisson tous les midis. Et c'est ma directrice de prod que j'adore, avec qui j'ai fait tous mes films, ça, qui me disait mais la cantine, faut pas, c'est très compliqué pour les gens. Alors on dit toujours les électros, les machinaux, comme s'ils étaient les seuls à devoir manger de la viande parce qu'ils portent du poids, alors qu'il y a beaucoup aujourd'hui de générations d'électro et de machinaux qui sont végétariens. Enfin bon, ça veut vraiment c'est vraiment des vieux trucs qui restent, quoi. Et du coup, quand on a posé la question de est-ce que vous seriez d'accord pour qu'il y ait un ou deux jours par semaine qui soient sans
végétarien,
ça n'a posé aucun problème. Ouais. Moi, ce qui m'a frappé, c'est puisqu'on parlait là de l'exemple de la cantine, c'est l'appréhension de la production à parler d'écologie en disant oh, tu vas pas faire chier les gens avec ça, quoi, en gros. Et ça veut pas dire qu'ils sont pas préoccupés, mais que ils veulent pas risquer le conflit, ils veulent pas et que du coup c'est aussi des barrières qu'il faut faire tomber du côté de la production. Voilà, alors quand évidemment l'écologie va avec l'économie, ça passe beaucoup mieux. Quand tout d'un coup on dit non, mais je vais pas faire de scène de pluie parce que c'est pas écologique et que forcément ça coûte moins cher de ne pas faire de scène de pluie, là tout d'un coup ils l'entendent de manière plus simple. Mais quand il s'agit de tenter de contraindre, même si c'est de manière douce, les gens à quelque chose qui pourrait leur déplaire, les gens de l'équipe, on sent qu'il y a un passage là, il y a quelque chose qu'il faut forcer un peu la porte.
Bah, c'est vrai que dans les retours d'expérience qu'on a pu avoir, on a entendu pas mal de cinéastes qui se sont retrouvés effectivement devant des murs par rapport à leur producteur ou leur productrice, qui vivaient cette démarche-là comme une contrainte supplémentaire, comme quelque chose de lourd. Alors décharge, ça peut avoir effectivement des répercussions financières, ça, dans le sens où c'est des réflexions en plus, donc du temps en plus. Pour l'instant en tout cas, puisque ces choses-là sont encore expérimentales dans leur mise en place. Et puis ça vient aussi, j'ai pu l'entendre de certains producteurs ou productrices, quelque part d'une sorte de réflexe à penser pour nous cinéastes en termes de liberté de création, comme si ça allait forcément nous limiter. Donc ma question, Karine, est-ce que vous vous êtes sentie limitée dans votre liberté de création par rapport à cette démarche écologique ?
Pas du tout sur ce film, non. Je me suis pas du tout. Enfin, moi, mes limites, elles étaient financières. Mais voilà, j'ai manqué de temps et comme souvent, j'ai manqué de moyens. Mais c'est pas l'écologie qui a créé la contrainte.
En l'occurrence, c'était un scénario qui permettait d'être écologique, c'est-à-dire c'était dans le scénario, on était posé à un endroit pour un certain temps, on a fait le choix de faire les trajets à vélo, à pied, de rendre les camions, on n'avait quasi pas de voiture de location, même si ça nous faisait 30 à 40 minutes de transport en commun pour certains, je pense, selon d'où on venait,
ou de pied, ou de marche à pied. Moi, la plupart du temps, parce qu'on était à Rennes, qui est une ville qui est pas très grande, et pour beaucoup, on rentrait à pied ou à vélo. Ouais.
Donc ça, c'était un vrai choix, et c'était plutôt un choix agréable et bien accueilli par nous tous, je pense. Après, je pense, en tout cas, de mon côté, au département images, je n'ai pas réellement fait de concessions, c'est-à-dire ce que Karine dit sur le fait de décevoir quelqu'un, c'est aussi ne pas pouvoir servir une histoire, c'est ne pas pouvoir suivre ce qui est écrit dans le scénario, c'est-à-dire faire du soleil, par exemple, dans une séquence qui est très dure, où on a besoin du soleil pour... Voilà, c'est écrit comme ça, c'est ce qu'on s'est raconté. Donc se dire, je n'éclaire pas, tu vois, ou vraiment si on part un truc plus radical, ben, on ne le fait pas. À vrai dire, ce qui me manque, c'est des vrais repères. C'est-à-dire, il y a une espèce d'idée généralisée comme quoi éclairer en LED, c'est beaucoup plus écologique, avec lesquelles moi, je ne suis pas du tout d'accord. Mais je ne suis pas d'accord parce que je lis des choses sur les terres rares. En fait, ça déplace la pollution. C'est de l'énergie grise très, très importante parce que les projecteurs sont désuets en très peu de temps. Et coûte cher à la Terre, coûte pas cher chez nous, parce que le diesel, il n'est pas consommé chez nous, parce que c'est moins d'électricité. Mais en fait, ça déplace la pollution. Et en fait, c'est pas écologique. Mais il n'y a pas réellement des chiffres à ces niveaux. C'est-à-dire, si je consomme une vieille casserole de projecteur qui a déjà fait 20 ans, mais qui consomme d'électricité, est-ce que ça reste pas plus écologique qu'un projecteur LED qui a été construit avec... des composants qui viennent de l'Afrique ou de Chine et qui est mort dans un an et demi, ou pas de la meilleure des cas, parfois c'est même plus court que ça.
C'est vrai que par rapport au poste de chef opérateur, il peut y avoir parfois une sorte d'envie un peu exponentielle d'avoir beaucoup de camions, beaucoup de matériel, beaucoup de projecteurs, beaucoup de... etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous seriez prête à... C'est un peu ce que vous dites, mais que vous seriez prête à remettre en question, ou c'est vraiment au film par film?
Mais je pense que c'est pas le cas d'Éline, en fait, tellement... Elle est pas très représentative de ça, il me semble, parce qu'elle aime bien faire avec pas grand-chose aussi.
Ouais, en fait, j'aime bien la lumière naturelle, j'aime bien le noir, le blanc...
Depuis toujours, en fait, même avant cette démarche, c'est ça?
Oui, après, c'est vrai que des fois, je sors des grosses sources très ponctuellement et me dis, mais ça, pour le LED, ce sera différent. Pourquoi tu prends un groupe à tel endroit? Et c'est vrai que je ne peux pas... J'essaye de les défendre. En fait, défendre, c'est pas défendre. Il me semble que c'est moins pire, mais je n'ai, comme je dis, je n'ai pas les... Je n'ai pas de... Comment je peux dire ça? Il n'y a pas d'études là-dessus. J'ai juste que ça pollue ailleurs et pas chez nous, et j'ai pas envie de ça.
Sur la liberté de création, c'est évidemment un sujet très complexe, parce que j'ai déjà entendu certains réalisateurs ou dire, voilà, il faudrait que nos personnages, alors par exemple, soient, je l'ai entendu dans certaines réunions aussi, soient éco-responsables, que dans ce qu'on fait passer dans un film, alors c'est pas forcément le sujet du film, mais que dans leurs gestes, dans leurs attitudes, qu'on sente que ça puisse impacter sur le spectateur, voilà. Et moi, ça me fait peur, par exemple, parce que je me dis, non, moi, je veux pouvoir avoir des personnages qui sont ambivalents, qui ont d'autres problématiques, qui sont très sombres, qui jettent leurs déchets partout. Je veux pas que mes personnages soient exemplaires, loin de là. Je pense que ça m'ennuierait profondément. Et surtout, en tout cas, mon cinéma, je vais pas parler au nom de tous les cinémas, mais je suis pas là pour faire passer des messages, en fait. J'ai la sensation que je peux faire du mieux possible, et c'est ce à quoi j'aspire dans la fabrication, mais en tout cas, je veux pas être contrainte dans ce que raconte le film. Après, forcément, c'est l'histoire que je vais raconter. Si je raconte, si j'écris un film de science-fiction qui se passe, je sais pas moi, avec ou même moins que ça, enfin un film qui demande à être tourné que la nuit, sous la pluie, avec des effets spéciaux de dingue. Oui, forcément, c'est un film qui aura plus d'impact écologique que si j'écris un film qui se passe presque que dans un champ, avec
la campagne,
avec que de la lumière naturelle, ou quelque chose de très naturaliste. Et ce serait triste aujourd'hui de se dire qu'on ne peut faire que des tout petits films avec des tout petits moyens pour pas qu'ils impactent sur l'écologie. Donc, en fait, la question, c'est aussi comment faire pour que des films pour que des gros films soient faits en étant le plus écologique possible. Parce que finalement, c'est pas les... Quand je dis petits films, ça veut rien dire, mais souvent, les plus petits budgets, finalement, sont souvent plus écologiques que les très gros budgets. Parce que quand il y a des très gros budgets, il y a une espèce de gabegie qui fait qu'on se dit, on a de l'argent, on a des moyens, on peut tous payer, tous permettre, et du coup, on va pas commencer à s'embêter pour des gobelets, quoi. Alors que moins on a de moyens, plus on est... Enfin, souvent, l'écologie et l'économie, ça va ensemble, quand même.
Ce qui ne cherche pas à culpabiliser les grosses productions, ni même à avoir un quelconque jugement qualitatif dessus. On est tous ici à aimer aussi les grands et les beaux films, qui sont parfois très chers. Mais c'est vrai que, dans la démarche écologique, l'urgence est peut-être aussi pour les cinéastes des plus gros films. À prendre conscience.
Après, c'est ce qui peut être intéressant dans ces formations, c'est aussi effectivement de connaître l'importance de chaque geste. C'est-à-dire, dans une rénovation d'une maison, on sait qu'une porte qu'on rénove, qu'on isole, elle prend 30 ans avant que la construction de la porte soit réduite en gain d'énergie. Alors que quand tu isoles la toiture, ça a un impact après 7 ans, par exemple. C'est-à-dire, si sur un film, tu sais que pour tous les acteurs ou pour les réalisateurs ou l'équipe, prendre l'avion, ça a tel impact. Et je ne sais pas quel autre exemple trouver, la cantine sans viande, ça a tel impact. Je pense que ça permet aussi de se dire, bah, vraiment, on met le paquet pour réduire à tel endroit. Mais pour ça, il faut connaître. Et je pense que, je ne sais pas si dans les formations ou EcoProd, ça hiérarchise un peu quels sont les endroits prioritaires auxquels faire attention.
Et effectivement, comme vous dites, Eline, c'est connaître la situation permet de la comprendre et donc éventuellement de trouver les meilleures solutions. Et je pense qu'aujourd'hui, très peu de cinéastes, voire quasiment aucun, n'est conscient des impacts environnementaux, des poids carbone, d'à peu près toutes les actions, démarches, construction et autres d'un film. Il y a des choses peut-être évidentes, que ce soit les véhicules individuels, des choses comme ça, mais il y a aussi des choses moins évidentes comme le fait de resserrer ses repérages sur une zone plus réduite. Il me semble que c'est quelque chose que Claire Denis avait fait sur le film « Trouble Every Day », avec des repérages qui étaient dans un rayon très réduit autour du pavillon qui avait été choisi pour les scènes avec Béatrice Dalle, qui permet de réduire énormément tous les déplacements, donc les véhicules et les changements d'installation. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui peut être même ludique, pourquoi pas. Après, sur la peur par rapport à la création, il faut quand même aussi, comme vous le disiez, sur la cantine ou d'autres choses, une immense partie des mesures faisables sur un plateau n'est absolument pas visible à l'image et n'empiète en rien sur la création. Déjà, beaucoup de choses sont des choses hors caméra.
Oui, après ce que je sais, enfin là maintenant, puisque je suis déjà en train de me poser la question du film d'après, le questionnement écologique est là en permanence, c'est-à-dire que là je suis en train de lire un bouquin en me disant tiens, est-ce que je pourrais peut-être adapter ce truc-là ou pas, j'en suis pas du tout sûre encore, et je disais à Eline tout à l'heure, c'est génial, ça se passe que c'est une histoire qui se passe sur 6 mois, vraiment dans la campagne, dans un endroit assez réduit avec 2-3 maisons autour, quelques personnages et c'est typiquement un film où on pourrait s'adapter, je pense, globalement à la météo du moment. Enfin, mais et donc j'y pense en me disant, tiens, c'est peut-être un film que je pourrais faire avec une forme de souplesse qui permettrait d'atteindre un niveau d'écologie raisonnable, on va dire. Et c'est vrai que si je lis aujourd'hui un bouquin, ou j'ai moins spontanément envie d'avoir une histoire qui va se passer en partie à Paris, en partie au Japon, en partie à Buenos Aires. Enfin voilà, je me dis d'emblée, c'est pas raisonnable. Alors que je devrais pas me le dire. C'est-à-dire que c'est très mauvais de se contraindre dans l'écriture, quoi, parce que justement, on a tellement de contraintes qui arrivent après que de toute façon, on finit toujours par réduire. Et au mieux, ce qui reste, c'est l'essentiel. Mais il n'empêche que c'est là. En tout cas, je sais que maintenant que j'ai mis la machine en route, si je puis dire, je ne sais plus faire autrement que de penser déjà, avant même d'avoir commencé à écrire, c'est comme un petit Jiminy Cricket de l'écologie qui serait au-dessus de mon épaule et qui me dirait « Ah, fais gaffe, ça va coûter cher, quoi, en termes d'écologie, je parle pas en termes de budget. »
Et est-ce que vous le vivez comme une ouverture vers une nouvelle direction de votre cinéma ou quelque
Je le
chose
vis comme,
qui vous...
comme parce que je suis quelqu'un qui peut aimer la contrainte quand elle n'est pas complètement étouffante, quoi. Donc ça peut m'amuser, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas ça peut nourrir mon désir aussi. Enfin voilà, je le prends comme une contrainte. J'essaie de le prendre comme une sorte de contrainte ludique, en me disant tiens, c'est une donnée supplémentaire. Qu'est-ce que tu fais avec ça, quoi. C'est vrai que par exemple là sur l'attachement, je voulais une scène où il y avait avec de la pluie. Et plutôt que c'est quelqu'un qui court et qui rentre dans une grange trempée pour rejoindre quelqu'un d'autre, et plutôt que de faire, disons que dans mon idéal, j'aurais bien aimé faire un plan large de cette grange depuis l'extérieur, avec la pluie qui tombe drache comme ça, et la personne qui court sous la pluie et qui va rejoindre l'autre dans la grange, et ben j'ai choisi de... En fait, on s'est débrouillé avec un tuyau d'arrosage pour faire couler un peu d'eau, quoi. Globalement, c'est l'accessoiriste, on n'a pas eu du tout... On n'a pas fait appel aux superviseurs de pluie qui font ça en général de manière professionnelle. Et la caméra, on l'a mise à l'intérieur de la grange. Et depuis l'intérieur de la grange, on voit de la pluie qui tombe. Mais du coup, c'est un petit rideau de pluie qui, bien éclairé par Éline, paraissent, et avec un bon son derrière d'orage, font la blague, quoi. Voilà. Et ça m'a pas trop coûté de faire ça. Je me suis pas dit.
Mais est-ce que vous pensez que, parce que le cinéma c'est aussi un glamour de la dépense, c'est aussi un glamour de la grandeur. Pas tous les cinémas bien entendu, mais certains, dont des cinémas qu'on a pu aimer quand on a eu envie de devenir cinéaste avec les films qu'on voyait adolescents. Le cinéma c'est aussi ce glamour-là, c'est aussi pas seulement la dépense, mais c'est aussi, ça peut être aussi le faste, ça peut être aussi justement l'inutile à l'image. C'est-à-dire que quand vous dites est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, est-ce que dans les cinémas qu'on aime, les choses sont toujours essentielles à l'image? Pas forcément, et pourtant c'est des choses qui nous font aimer quand même cette image. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait à un moment penser les choses en termes d'équilibre? C'est-à-dire que si un film devait effectivement se passer à Buenos Aires un jour et au Japon le lendemain, à ce moment-là, qu'il y ait un équilibre sur d'autres choses dans le film?
Ben, je pense que c'est la meilleure des solutions, oui. Mais l'équilibre, il se fait en fonction de quoi? Du budget global du film, on pourrait aller plus loin, et là, ce serait presque catastrophique de se poser ces questions-là en amont, mais de se dire finalement, un film comme... je sais pas, je prends par exemple, puisqu'il vient d'avoir en plus des prix de l'AESA, Anatomie d'une chute. Je sais pas du tout comment ils ont fabriqué le film et avec quels moyens et tout ça, mais il y en avait quand même. Je pense pas que ce soit un énorme film. En même temps, ils avaient quand même suffisamment de moyens pour qu'il y ait de la neige en permanence. Ils ont eu le temps de retourner des scènes si c'était nécessaire. Enfin, elle a eu un an de montage, je crois. Donc, c'est un film qui a eu des moyens et qui, probablement pas très écologique dans sa fabrication. Mais au final, c'est un film qui fait énormément d'entrées, qui fait beaucoup de bien à la culture, en général, enfin voilà, qui est une vitrine du cinéma français magnifique. Donc, d'une certaine manière, l'empreinte écologique de ce film, elle est réduite à néant, pour moi, dans la mesure où tout le monde en profite. Est-ce que, à l'opposé, un film qui aurait une empreinte écologique majeure, mais qui serait vu par très peu de monde, c'est une gabegie. Mais sauf qu'on peut pas se poser la question logiquement dans cet ordre-là, puisqu'on ne sait jamais ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Voilà.
Est-ce que vous auriez envie, ou est-ce que vous seriez prête, ou est-ce que vous trouveriez ça souhaitable de savoir en amont qui sont les techniciens dont la démarche est déjà avancée en termes d'écologie. Et est-ce que vous auriez envie de privilégier ces personnes-là pour un tournage futur ?
Tu as prêté à répondre.
Non, ouais. Mais je réfléchissais parce qu'en fait, ça fait partie de la personne globale. On sera mis un premier critère au choisir sur une personne entière. Je travaille avec des gens qui sont très moyennement, voire très peu écologiques actuellement, mais qui ont des qualités énormes humaines ailleurs. Et
les qualités humaines, c'est aussi de l'écologie.
Voilà, donc je ne pense pas que ça devient un critère plus important que les autres. Voilà.
Il existe aujourd'hui donc des éco-référents, beaucoup des éco-référentes en réalité. Est-ce que vous souhaiteriez, Karine ou Hélène, collaborer avec l'une de ces personnes sur un futur tournage?
Dans l'absolu, et après, il faudrait que je comprenne exactement, que je sache exactement quel rôle de l'éco-référent je vois globalement, hein, mais de manière plus précise, comment, si c'est quelqu'un qui permet justement de nous aider à trouver le bon équilibre, et qui est comme ça, qui a une relation transversale à tous les membres de l'équipe ou tous les chefs de poste à minima, voire plus, et qui permet justement de créer avec la production un équilibre écologique sur le film en aidant peut-être le réalisateur ou la réalisatrice à faire des arbitrages. Oui, dans l'absolu, je trouve ça super, quoi.
Ouais.
Voilà, en tout cas, c'est sûr que sur mon prochain film, j'ai très envie de l'essayer.
Je rappelle d'ailleurs à cette occasion qu'on l'épisode 5 de ce podcast sera consacré au métier, à cette nouvelle profession des éco-référents. Par le fait fondamental d'ailleurs que le tournage de L'Attachement se passait quasi entièrement à Rennes, ce qui donc en soi est une grande... est un facteur principal de la dimension écologique du film pour limiter les déplacements et autres. Quelles ont été les vraies évolutions entre le tournage des Jeunes Amants et celui de L'Attachement, Karine et Hélène ?
Globalement, donc ça c'était énorme, hein, le fait de n'avoir qu'un lieu, enfin qu'une seule ville de tournage, parce que on a été parfois on a fait une centaine de kilomètres peut-être pour aller sur la côte, mais globalement ça c'était vraiment très important. Et puis c'était un film qui était quand même en termes d'éclairage, c'était moins, je sais pas, toi tu pourras en parler, mais j'avais une exigence un peu différente aussi, je pense que c'est un film qui nécessitait moins de lumière.
On est allé sur des choses qu'on essayait d'être plus souples, c'est-à-dire de nouveau être sur du vieux matériel. Après on arrive à être assez vite à des limites parce qu'on tournait dans un décor intérieur et donc on avait de la surchauffe, donc personnellement j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup évolué sur celui-là. En fait c'est ce que je t'ai décrit à la fin quand tu demandais où est-ce que ça a bien avancé, mais dans les petits gestes certes, dans la récupération de tu as travaillé avec pas de gélatine voilà, on avait fabriqué des plexis qui servaient, mais qu'on a récupéré par la suite, qui vont resservir au chef électro. Mais je n'avais pas l'impression d'avoir fait un truc complètement différent. Et c'est un peu frustrant. C'est-à-dire, on a toutes les bonnes intentions, mais on est limité. En tout cas, je me suis sentie limitée parce que je ne sais pas pas toujours comment sortir aussi d'une vieille manière de travailler. Je ne sais pas si c'est juste ce que je dis, mais...
Du coup, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour... à quel endroit des améliorations seraient possibles ?
Je pense que la prochaine fois, c'est que ça pourrait être fait, c'est-à-dire quand on parle à la lecture du scénario, se dire, là, on travaille autrement, vraiment sur certaines séquences. Il peut être plus choisir ensemble avec réalisatrice ou réalisateur, comme on dit, faire un équilibre, par exemple, en lumière, où on peut simplifier et où on garde vraiment les choses indispensables.
Mais après, on dépend aussi de paramètres qu'on n'anticipe pas forcément, qui sont les acteurs avec lesquels on travaille, qui parfois sont... Bah, y a des acteurs qui sont très carrés, avec qui il est simple de prévoir, et d'autres qui sont très imprévisibles. Parfois, on fait des heures de rush, là où on pourrait faire beaucoup moins. Tourner en 8K, en 6K, en 4K, il y a toutes ces questions-là. Il y a aussi la question de la post-production qui pèse lourd, hein, je crois, dans l'empreinte écologique. Voilà, c'est pas que le tournage. Hein. Voilà, mais c'est vrai que sur le tournage-là, typiquement, on n'avait pas de loge pour les acteurs, par exemple. Les loges étaient toujours dans un bâtiment annexe, mais il n'y avait pas de car-loge, typiquement. Après, c'est des détails, ouais. Mais c'est quand même chouette. C'est qu'à la cantine, tous les restes de la cantine finissaient en Tupperware pour tout
ce les stagiaires.
De l'équipe.
Et principalement pour les stagiaires.
Et principalement pour les stagiaires, d'ailleurs. Pour tout ce qui est l'équipe, pour tout ce d'équipe qu'ils souhaitaient. Ce qui a été frappant, c'est que c'est un tournage on a tourné ce film en deux parties, globalement, une été, au mois de novembre. Et la partie principale s'est tournée à l'été. Et tout le monde était très attentif, autant que possible, à l'écologie. Voilà, c'était un peu présent tout le temps sur le plateau. Attention, fais pas ça, c'est pas écologique. Tiens, peut-être. C'était un peu tout le temps là, quoi. Ça pouvait être une blague aussi parfois. Ça pouvait être fait avec une forme de joie et de légèreté partagée. C'était pas que une contrainte. Il y avait, je pense, un plaisir commun. Ça, il faut le dire, à travailler ensemble avec ce souci-là. C'est-à-dire, ça pouvait être aussi joyeux de se dire, ben, on fait du mieux qu'on peut. On pouvait se donner des idées les uns des autres, et pourquoi tu fais pas tel truc, c'est peut-être, enfin voilà, il y avait quelque chose qui créait du lien aussi, c'est pas juste de la contrainte l'écologie. Mais ce qui a été frappant
vraiment,
c'est que quand j'ai tourné la deuxième partie, il me restait pas tellement de temps, il me restait 15 jours de tournage sur la deuxième partie. J'ai un peu changé d'équipe, et en l'occurrence c'est pas Eline qui a fait la deuxième partie, mais je n'ai pas renvoyé ma lettre écologique aux gens qui étaient nouveaux venus sur cette deuxième partie. J'ai lâché prise un peu en me disant, enfin pour moi on était dans la continuité, même si deux trois mois s'étaient passés, voilà. Mais je me suis rendu compte sur le tournage que tout le monde avait lâché prise. J'avais pas été attentive à ça, ou je ne m'y attendais pas. Moi qui était sans doute le garant de cette écologie sur le plateau, à partir du moment où j'ai lâché prise, il y avait plus d'écologie. C'est-à-dire, ça veut bien dire, enfin sans doute, hein, je prends pas toute la part de responsabilité, mais que quand même le réalisateur ou la réalisatrice est vraiment le garant de ce mouvement sur son film, quoi. Enfin voilà, c'est quand même, on est extrêmement responsable de ça. On peut l'être, en tout cas on peut être un vrai moteur, voilà. Et si nous, en tout cas, je pense que si le réalisateur ne l'est pas, alors il peut rien se passer.
Idéalement, main dans la main avec la production.
Oui, main dans la main avec tout le monde, mais je pense que ça ne peut pas venir du producteur uniquement, ou je pense que le premier qui peut prendre ça en main, c'est le réalisateur ou la réalisatrice.
Oui, non, ça me paraît fondamental, et d'autant qu'on a entendu dans des retours d'expérience des vrais problèmes de légitimité ressentis par des membres de l'équipe, d'une équipe dont justement le mot n'aurait pas été donné par le ou la cinéaste, c'est-à-dire des gens, je ne sais pas, au HMC, à la régie ou quoi, ou qui seraient déjà dans une démarche écologique, mais qui seraient un peu contestés ou non légitimés, en tout cas, et se sentiraient jugés ou déplacés par d'autres membres de l'équipe quand le mot n'a pas été donné. Entre guillemets, d'en haut.
Et je pense juste qu'il y a un bastion qui va être, à mon avis, le plus difficile à faire bouger, c'est les acteurs. Quand je dis les acteurs, c'est évidemment les acteurs les qu'on dit bancables, ou les qui ont plus de notoriété sur les films. Parce que j'en ai parlé en amont. J'ai fait suivre ma lettre écolo à tous les agents, enfin aux agents des plus grosses star de mon film, si je puis dire. Ils n'ont même pas pris soin de répondre. C'est-à-dire que ça n'existait pas. C'est passé dans la corbeille de leur boîte mail, quoi. C'est une évidence. C'est-à-dire que je pense parce qu'ils n'ont pas envie d'envoyer leur talent, comme ils disent, d'ennuyer leur talent avec ça. Ils ne veulent pas faire baisser leur niveau d'exigence. C'est-à-dire que s'il y a une exigence qui est que... Alors, sur ce film-là, il n'y avait pas de carloge en soi, mais si tout d'un coup, on demande un camion plus petit pour les acteurs, c'est comme si tout dégringolait pour eux d'un coup, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure possible. Et ils s'alignent toujours vers le haut. C'est-à-dire, c'est comme sur combien coûte un acteur. Si l'acteur principal prend tant d'argent, les autres acteurs autour vont s'aligner vers le haut. Aucun acteur ne va descendre pour s'aligner vers le bas. Je pense que c'est pareil en termes d'écologie. Si tout d'un coup, la vedette, je sais pas comment quel mot utiliser, mais la star du film est hyper motivée sur l'écologie, au même niveau que le réalisateur, si tout d'un coup, cette star se dit, écoutez, moi, en fait, j'ai pas besoin de ça, ni de ça, ni de ça, ça me suffit d'avoir... j'ai besoin d'un certain confort pour être un peu tranquille, pour avoir un endroit à moi, mais j'ai pas besoin d'avoir un carloge immense, ou pour moi tout seul, enfin, que chacun... je pense que ça a un peu impacté sur tous les autres rôles. Mais c'est toujours, en fait, celui qui est en haut... Il peut y avoir un ruissellement dans le bon sens du terme si ça part d'en haut, quoi. Je pense que c'est pour ça que les stars, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, ont vraiment un pouvoir très fort sur leur profession, sur tous les acteurs du film. Et aussi, du coup, sur l'équipe technique, au fond. Parce que si la vedette du film fait un effort monstrueux pour l'écologie, alors là, tout le monde est obligé de s'y plier, quoi. Enfin, pas obligé au sens contraint, mais tout le monde ne peut qu'avoir l'envie de faire cet effort-là aussi. Après, je trouve qu'il ne faut pas mettre les acteurs forcément dans le même panier que tous les techniciens, par exemple. Je pense qu'un acteur a besoin d'être protégé, d'avoir... je crois que c'est très difficile d'être acteur. Enfin, j'ai une conscience de ça. Je pense que c'est des gens qui il ne faut pas les brosser systématiquement dans le sens du poil, leur passer tous leurs caprices. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Juste en train de dire que je peux comprendre qu'un acteur ait un certain nombre d'exigences, mais il faut qu'elle redevienne un peu raisonnable.
Je pense que c'est quelque chose qui est un peu prévu aussi, et notamment avec les formateurs, c'est que l'idée est quand même d'avoir une formation et une sensibilisation, en tout cas, qui est adaptée à chaque corps de métier. Et effectivement, il a bien été identifié que les comédiens sont un corps de métier particulier auquel il faudra s'adresser différemment, avec d'autres arguments, d'autres solutions proposées. En tout cas, il y a une vraie attente de ce côté-là, d'une prise de conscience mutuelle, comédien et agent. Karine, est-ce que vous avez choisi la région Bretagne pour tourner en été, c'était aussi pour éviter les climatiseurs, vous disiez ?
Bon, je crois que j'ai un attrait pour la Bretagne, et pourtant j'ai aucune origine bretonne et tout ça, mais qui fait que j'en suis à mon troisième tournage en partie breton, en grande partie là en l'occurrence. Mais c'est vrai que je savais que j'allais tourner, on sortait les étés sont de plus en plus chauds, en tout cas quand ils sont chauds, ils sont de plus en plus chauds. Je savais qu'on allait tourner en plus avec des enfants... beaucoup dans des appartements, enfin voilà, j'avais pas du tout envie qu'on se retrouve dans le sud de la France avec des températures dépassant les 40, donc ça fait partie des raisons pour lesquelles on a postulé pour la région Bretagne en l'occurrence. Mais c'est pas, pour le coup, c'est pas du tout un attrait financier, on n'est pas du tout parti en Bretagne pour des raisons financières, on est parti en Bretagne en partie pour des raisons écologiques.
Et Éline, par exemple, tout à l'heure, on a évoqué avec Karine la post-production et le poids carbone d'une post-production. Là aussi, il peut y avoir quelque chose d'un glamour un peu exponentiel et dans la dépense et dans la technologie. 2K, 4K, 6K, 200K. Est-ce que vous seriez prête à engager la discussion de la désescalade technologique sur ce sujet-là.
Oui. Oui, tout à fait, en fait. Moi, je veux bien regarder. En fait, ce qu'il y a, c'est que les cas sont directement liés à la taille du capteur aussi sur la caméra. C'est-à-dire, on parle d'un capteur Super 35 ou d'un capteur grand format. Et forcément, les cas augmentent aussi avec ça. Donc, c'est de nouveau des choix esthétiques. Il se fait que moi, je tourne plus en Super 35 la plupart du temps, d'ailleurs. Donc, dans des cas plutôt réduits. Pas toujours, j'ai fait du grand capteur aussi. Mais c'est sûr que ça commence par un choix à ce niveau-là, où moi, je suis tout à fait d'accord d'en parler. Mais c'est aussi la manière de tourner, comme Karine dit, c'est-à-dire être de nouveau plus rigoureux, c'est-à-dire dans la manière de tourner.
Et dès le découpage, vous voulez dire ?
Non, même sur le plateau, c'est-à-dire couper la caméra au moment où on coupe, pas laisser tourner entre les prises, c'est-à-dire on enchaîne. C'est-à-dire, c'est des gestes tout simples qui peuvent, je pense, économiser facilement 10 à 15% de matière qui est perdue. C'est tout simplement en se travaillant à l'ancienne, c'est-à-dire lorsque le moteur, au clap, au coupe, à ne pas se dire, bah, de toute façon, ça laisse tourner, comme ça je peux choper les choses. Tu vois, ça peut servir rarement, ça peut servir parfois, mais c'est-à-dire se remettre une rigueur comme en 35, je pense que ça réduit déjà.
Ça dépend aussi maintenant des acteurs avec
absolument,
lesquels on travaille
tout à fait. Hein,
et qui ont intégré le fait qu'on pouvait ne plus couper aussi, je pense, maintenant. Donc, ils savent qu'on n'est pas en 35 mm et que du coup, ils l'ont intégré. Et parfois, c'est les acteurs qui disent « ne coupe pas, je recommence », etc. Donc, et juste, je rebondis, hein, puisque vous parliez de préparation, je pense qu'en fait, un des nerfs de la guerre qui est aussi bien économique que écologique, c'est la préparation.
C'est sûr.
C'est-à-dire le découpage, de découper le film, c'est le cas sur tous mes films, c'est-à-dire que je suis pas du tout quelqu'un qui improvise sur le plateau. Enfin, il y a une part d'improvisation qui est liée à tous les événements, à tous les imprévus. Mais on est allé en préparation avec Mathieu, mon premier assistant, Eline, la script parfois, pour pré-découper les scènes. On s'est pris en photo avec nos iPhones, voilà, pour choisir les axes, les plans, déterminer les focales et tout ça. Du coup, on avait une espèce de mood book que j'appelais comme ça, enfin, qui est une sorte de découpage avec nos têtes à nous, mais qui était des références pour toute l'équipe, qu'on n'a pas imprimé, parce que c'était un trop gros document qui faisait 600 pages, mais que chacun avait sur éventuellement son iPad et pouvait s'y référer. Qui fait que la déco, par exemple, pouvait nous demander est-ce qu'il faudra repeindre ce mur-là ? Et on disait non, c'est sûr, il ne sera jamais dans l'axe. Alors après, du coup, ça m'obligeait à être raccord avec les idées que j'avais eues en prépa, parce que je ne pouvais pas tout d'un coup dire non, mais finalement, on va changer d'axe et on va filmer ce mur, puisqu'il n'avait pas été repeint. Mais tout ça, c'est des économies, évidemment, de peinture, mais aussi de peintre. Et puis, quand on dit peinture, ça veut dire peindre, puis retirer la peinture, et puis repeindre derrière pour remettre le décor quand on tourne chez des gens. Enfin, voilà. Donc, c'est beaucoup... c'est pas qu'une couche de peinture, quoi. C'est plein de choses qui ça engendre plein de choses et puis c'est de la déco derrière donc ça typiquement ça
Oui, mais la prépa en général permet de gagner en écologie, en économie, c'est-à-dire même sans être dans un découpage précis, simplement se dire je sais exactement ce que j'ai besoin pour telle séquence, même si elle n'est pas prédécoupée parce qu'on a discuté sur place ou qu'on a pris plus de temps en prépa, permet tout simplement moi remplir le camion. C'était de partir avec moins de matériel, de se rassurer, entre guillemets, sur de ne pas se dire ben, « j'ai pas besoin de bretelles et ceintures, sur tel décor, je me sors avec ça, ça ira très bien ». Et ça, c'est lié à une prépa conséquente. Peu importe quel système de mise en scène on tourne. Voilà, je pense que c'est un investissement qui est que gagnant, de tous les cas.
D'où l'intérêt, effectivement, pour celles et ceux qui le souhaiteront à l'avenir, de la présence d'un éco-référent pendant cette phase. On a évoqué un peu l'écriture, on a beaucoup parlé du tournage, on a aussi évoqué un petit peu la post-production, mais Karine, un tournage, c'est aussi une tournée, souvent. Une tournée qui nous fait voyager, souvent en avion.
Alors, pas si souvent. Alors, sur mes premiers films, on parlait beaucoup moins de problèmes d'écologie et on n'était pas encore en panique. Et donc, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allée dans les festivals internationaux. J'ai pris l'avion pour aller en classe affaires pour aller 4 jours en Chine, 5 jours en Corée. Enfin. Ou aux États-Unis et en fait aujourd'hui je ne le fais plus, c'est pas compliqué, donc pour il y a donc le temps de la promotion du film en France, je ne voyage que en train, je de toute façon je ne prends plus l'avion, donc c'est après mes distributeurs font avec cette donnée là donc je peux voyager en France partout en train. Après j'ai envie de limiter mes dates de tournée aussi par confort, parce qu'au bout d'un moment c'est fatigant, épuisant, et surtout j'ai aussi demandé je demande aux distributeurs de ne pas me mettre forcément dans des grands hôtels avec des chambres immenses dans lesquelles je vais passer une nuit, enfin je vais poser mes affaires et sortir tout de suite et revenir juste pour dormir. Parfois, je me suis retrouvée dans des chambres d'hôtel en me disant, mais pourquoi ils me mettent dans cette chambre-là, qui était, la suite de... Alors, je sais bien, le problème, c'est que parfois, ils ont des accords avec je ne sais quelle chaîne d'hôtel, accords et compagnie. Et du coup, ils me proposent enfin, ils me mettent systématiquement dans la meilleure chambre. Mais donnez-moi la toute petite, quoi. J'ai pas besoin de plus. Donc ça, c'est une demande que je fais, mais c'est difficile. Ils ont du mal à l'intégrer. C'est fou, quoi. Ça peut, je pense, leur faire faire des économies, mais c'est pas encore rentré. Alors, j'espère que sur ce film-là, ça va. Je vais leur en parler beaucoup plus en amont, et j'espère que ça impactera plus. Et ça va même devenir une exigence. Peut-être que je peux leur dire. Écoutez, c'est pas compliqué, je ne voyage plus si vous me mettez des trop belles chambres à la clé. Et puis voilà, pour les festivals, si jamais le film est sélectionné dans des festivals internationaux, ben en fait, je n'arrive plus à y aller. C'est-à-dire que c'est je ne peux plus prendre l'avion. Alors en même temps, je sais bien qu'il faut défendre la culture. Française, à l'international. Je sais bien que même que pour les festivals, le dernier festival dans lequel j'ai été, c'était le festival du film français au Brésil, Sao Paulo et Rio. Et ils avaient besoin de notre présence, d'autant qu'ils avaient vécu les années Bolsonaro et que c'est leur festival tanguait un peu, un festival qui a eu vraiment une heure de gloire. Et donc ils étaient très heureux, les organisateurs du festival, qu'on soit là, qu'on soit venu. Donc c'était important pour eux. Mais malgré tout, je me dis c'est effectivement dommage pour les festivals de plus avoir de représentants des équipes sur place. Mais peut-être qu'aussi, on peut aller... Si vraiment il fallait prendre l'avion, j'ai vraiment plus du tout envie de le prendre à titre personnel, mais peut-être qu'on n'est plus obligé de voyager en classe affaires. Peut-être qu'encore une fois, même quand dans les festivals internationaux, on peut exiger d'avoir des chambres plus petites, chambres d'hôtel, enfin réduire au maximum plutôt que de dire non à tout. Il y a peut-être une demi-mesure à trouver, mais jusqu'à ce que de toute façon... Un jour, est-ce qu'on pourra encore voyager comme ça facilement? J'en sais rien, mais tant que c'est possible, peut-être que juste on peut demander à ce que ce soit moins énergivore, quoi, enfin, tout simplement.
Ben merci, Karine Tardieu et Eline Kirschfink.
Merci à vous.
Pour toutes vos réponses.
Merci.
J'espère que ça peut créer un effet d'entraînement, d'encouragement et aussi de dialogue entre cinéastes. Plus on se parle et plus on cherche les solutions ensemble, mieux ce sera, je pense. Ce podcast, sur une idée de Marine Brun-Franzetti, a été préparé par Jonathan Choupac et Antoine Barraud. À la technique, Johan Couso Paoli à Paris et Hélène Lamy à Bruxelles. Le thème musical a été composé par Didier Dabréau. Merci à Dinosaur pour l'équipement son. Merci au groupe de travail écologie et cinéma de la SRF, notamment à Ralil Cherti et Axel Roper. À l'équipe permanente de la SRF et à ses coprésidents et coprésidentes. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.